Voilà, Marc Gallet, Maria Christine, qui est malheureusement pas avec moi parce qu'elle est à la maison attendant un de nos enfants, l'aîné, de retour de reportage. Il revient du Pakistan. On a trois enfants. On est parti au Cambodge avec des enfants en bas âge, dans une situation de guerre civile. C'était compliqué. Et au Cambodge, on a appris le cambodgien. Kyom Nye Pisak Maer. Bah. Puis après, on est rentré. Et puis, on s'est retrouvé dans une église qui était vraiment une chapelle avec clocher, la fresque, l'orgue. Un vrai bâtiment, un temple, en fait, hein, qui était racheté par une de nos assemblées. Et là, on a beaucoup travaillé par le milieu intellectuel, le milieu aussi de l'art. On avait en cœur Laudate Deum, qui est toujours d'ailleurs. On remplissait la cathédrale, on revisitait des œuvres sacrées de Beethoven, d'Handel, etc. Et on touchait plutôt le milieu bourgeois de Lausanne. Et puis après, Dieu nous a appelés dans une église de jeunes qui s'appelle le Gospel Center, Lausanne. Et là, on a été d'abord à la gare de Lausanne parce qu'on a perdu nos locaux de la Ligue pour la lecture de la Bible, vu qu'ils ont déménagé à Emmaüs, Seigne-Légier. On s'est retrouvés en dessus du buffet de la gare, une salle de 200 places. Depuis le quai en de la gare, on montait au culte, on a mis nos drapeaux Gospel Center sur le quayon, tout le monde était là qui partait sur Zurich, et on vivait en culte dans la gare de Lausanne. C'était assez génial, on était dans la foule. Et d'ailleurs, même les dealers qui traînaient par là sur le petit chêne m'appelaient pasteur. Puis je leur ai dit, c'est l'heure du culte, il faudrait peut-être que tu viennes maintenant. Voilà, donc ça c'était à Lausanne. Puis après, le plan Léman 2030 des CFF font qu'ils ont restauré la gare de Lausanne, donc on a à nouveau perdu notre local. Puis moi, j'avais à cœur de ne pas être une église juste de plus à Lausanne. Je voulais être dans un lieu stratégique. Et Dieu nous a mis à cœur le Flon. Le Flon, c'est le lieu des cinémas, des restaurants, du shopping tendance et de la fête. Et on a visé une salle qu'on ne nous l'a pas donnée, mais un directeur de discothèque a entendu parler de notre besoin. Puis il est venu nous voir en disant, on a le même public, les 20-40, et on amène la même joie à les deux. Je dis bon. Par contre, mes gens ne viennent jamais chez vous et vos gens ne viennent jamais chez moi. Donc on peut faire du business ensemble. Et puis le dimanche est toujours libre parce qu'on fait la fête mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais dimanche c'est libre. Et en fait, c'est un grand cinéma qui était transformé en music hall. Avec light show et tout le beans, ça collait la bière et le Red Bull. C'était tagué d'une manière pas très chrétienne, mais enfin, on s'est dit, c'est là qu'on doit être, le D-Club. Et on a pris le langage, après, du Cambodge, des intellectuels, des jeunes qui font la fête au D-Club. C'était assez facile d'inviter les gens parce que tout le monde le savait. Moi, c'est la première fois que j'allais, mes enfants savaient où c'était d'ailleurs, mais moi, je ne savais pas. Et on pouvait facilement inviter les gens. Et là, on était un certain nombre d'années. Et puis 2 ans, le Seigneur nous a appelés à aller dans une église qui touche plutôt les villages maintenant, l'église de Launay, entre Morges et Lausanne, vers la gare de triage de Donge, au milieu de l'autoroute, très mal placée. On va résister aux tribulations et à la persécution parce que personne ne sait où on est. Alors c'était un peu un choc pour moi, mais on a défini de se dire, mais comment revitaliser cette église d'une 60aine de personnes? Je faisais partie des plus jeunes, alors que je faisais avant partie des plus vieux. Et puis là, on a réfléchi parce que c'est vrai, en étant dans les instances de la Fédération de la FRE, on a plus de 50 églises en Suisse romande, il y a un bon tiers d'églises qui est en train de péricliter. Donc le défi, c'est comment revitaliser une église qui est déjà là. Alors il n'y a pas de light show, il n'y a pas de la louange il son, il n'y a pas des super orateurs internationaux comme on avait au gospel, mais il y avait des gens qui avaient cœur de s'ouvrir pour l'évangile, et c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant nous sommes à Launay, nous avons 3 enfants, le dernier, 22 ans, a mis en échec le système scolaire. Je résume, toujours sans formation. Mais revenant de Jeunesse en Mission, il s'est engagé dans une start-up de café, de trucs biologiques, je n'ai pas encore tout compris, mais très sympa. Et puis il dit, papa, je vais être témoin là. Alors lui, il est là-dedans. Notre fille, Natania, elle est dans la... Elle a aussi mis en échec le système scolaire, on a beaucoup prié, elle a pu quand même être prise dans une garderie, elle est animatrice de petite enfance, elle a un don pour les enfants en difficulté. mais elle ne sait pas comment expliquer comment elle le fait, mais elle arrive à toucher ses enfants. Et elle a cœur les enfants de la rue, elle part aussi en école de disciples cet automne, je ne sais pas quand elle va revenir, ça c'est le problème des parents, on envoie les enfants. Ça c'est Natania, puis Florias, l'aîné, lui travaille dans la vidéo. Il fait des vidéos, et puis il monte sa petite entreprise comme cela. Et puis, quand il était en formation pour faire des vidéos à l'ERACOM à Lausanne, son travail de diplôme, il l'a fait en court-métrage. En court-métrage, une histoire de dealer, un truc complètement space. Puis il m'a dit, papa, les banlieues lausannoises, c'est trop tranquille. Il me faut une vraie banlieue. C'est type banlieue 13, pour ceux qui ont vu le film. Puis je dis, ben écoute, va demander à Pafon. Pafon est un collègue de l'école biblique qui est pasteur baptiste à Sevran, une de ces cités de l'Est de Paris, où il brûle les voitures et s'envoie les machines à laver par-dessus. Je dis, ben va voir là-bas. Puis il était là-bas, et puis dans l'église de Pafon, il y avait un dealer qui s'est converti depuis 2 ans et qui l'a introduit dans le milieu de Sevran et de toute cette zone et tout. Alors il a pu commencer à faire son court-métrage, à prendre des vues. Il a demandé l'autorisation à la police et aux responsables de gang pour être couvert des deux côtés. Et puis il a fait son travail. Mais le problème, c'est qu'il avait besoin d'une prise de vue dans le vélodrome qui était à Clichy-sous-Bois, la banlieue d'à côté, et ils sont en guerre, les gangs, entre ces deux. Puis là, bon, mais il a quand même été tout seul. Il était au four. Le four, c'est là où se vend la drogue. Et au four, il a demandé le chef. Et le chef s'appelle Job. Elle était vers Job en disant, voilà, moi je vais prendre des prises de vue avec tes gars aussi en moto, qui sont immatriculés, etc. Je me suis arrangé avec la police que pendant que je filme, ils ne viennent pas vous coincer. Ça joue et c'était d'accord. Plus bon. Il était d'accord, tout fier qu'en Suisse vient filmer à Clichy-sous-Bois. Bon. Puis ça s'est bien passé, pas eu de soucis, ils sont rentrés. Et puis Floris me dit, c'est papa, je crois qu'il faut inviter Job à la maison. Alors Job, c'est un dealer, responsable de plusieurs lieux de deal. Il est franc-maçon, satanique et pratique le vaudou. Voilà, je résume. Hein, voilà. Puis voilà. Écoute, je crois qu'on doit l'inviter à la maison. Il faut qu'il change d'air, il est dans sa banlieue. Je dis, ok, invite-le. On l'a pris au TGV, il est arrivé chez nous, on l'a aimé comme un fils. On a parlé dans sa vie. Alors il venait fou parce qu'il me dit, mais ma femme, qui a un don prophétique, dit, ah, toi t'es voyante, tu sais tout de moi, t'es voyante. Puis quand moi je lui essayais de l'amener un peu de sagesse, il dit, toi t'es Dieu. Il était interpellé, il était travaillé par la présence de Dieu. Le dimanche soir, mon fils, qui est un des pasteurs d'ICF Lausanne, l'a pris. Il était touché par l'Évangile. Il est revenu, on a vécu des délivrances avec lui. Et actuellement, il est en chemin, mais c'est très long de sortir de ce système. Mais quand il nous a demandé d'inviter Job à la maison, eh bien, on s'est dit, c'est un rendez-vous. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est ce verset de Luc 15, 1 et 2, où il est marqué, on peut le projeter peut-être, s'il y a le PowerPoint, autrement je le lis, vous ouvrez vos Bibles, voilà, il est là. Le 1 et 2, hein. Tous les péagers et les pêcheurs. Alors les péagers, c'est des collaborateurs de la puissance romaine qui dominait sur le pays et qui relevait des taxes d'impôts plus pour eux. Donc c'était des traîtres de la nation juive et des pêcheurs. Les pêcheurs, c'est ceux qui dysfonctionnent, c'est ceux que nos enfants n'aimeraient pas qu'ils se marient avec. Hein, c'est ceux qui sont en dehors des valeurs qu'on a l'habitude. Eh bien ces gens-là bizarres, il s'approchait de Jésus pour l'entendre. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le parfait. Le message de Jésus les attirait, la personne de Jésus les attirait, alors qu'ils étaient complètement en dehors du cadre de la foi juive, du cadre, en fait, de la loi juive. Eh bien, ces gens-là impurs, dysfonctionnels, s'approchaient de Jésus. Les pharisiens et les scribes, alors c'est les représentants du temple, les représentants de la loi, les enseignants et ceux aussi qu'on réécrit la Torah, la Bible, et c'est aussi pour ça qu'on l'a, c'est à cause des scribes, eux murmuraient, mais celui-ci, donc Jésus, accueille des pécheurs, donc accueille des gens de mauvaise vie, accueille des gens complètement dysfonctionnels, accueille le pédophile du coin, accueille la prostituée, accueille le dealer. Vous voyez ? Accueille. Et non seulement il les accueille, mais il mange avec eux. En Orient, de manger, c'est déjà être ami. C'est quand la dernière fois que tu as eu à ta table quelqu'un qui ne fait pas partie d'un réseau d'église ? C'est juste pour mesurer la rupture sociale que nous avons en tant que chrétiens. Jésus l'accueillait et il était avec eux. Jésus attirait les non-croyants. Et c'était étonnant. Et le problème qu'on a ici, c'est que nous avons un Dieu de relation et pas un Dieu de religion. La religion, c'est juste, c'est biblique, mais ce n'est pas habité par Dieu et ce n'est ni habité par nous-mêmes. C'est extérieur. Mais on a un Dieu de relation qui va jusqu'à accueillir. Et là, il y a un domaine très important chez Jésus à poser, c'est qu'il est en guerre par rapport à Satan. Et Satan, lui, il connaît chacun de votre nom. Chacun. Mais il vous appelle comment ? Il vous appelle par votre péché, il vous appelle par vos faiblesses, il vous appelle par votre échec, il vous appelle par vos fragilités. C'est l'accusateur, c'est le menteur. Tandis que Dieu, il connaît vos fragilités, il connaît votre échec, il connaît vos erreurs. Il connaît vos fragilités, mais il vous appelle par votre nom. Parce que vous êtes un fils, une fille du Dieu vivant. Quel que soit votre vécu, quel que soit votre passé, quelle que soit la réalité que vous portez dans le secret de vos cœurs, Dieu le Père t'appelle par ton nom. Tu existes devant lui. Et il t'accueille. Et comme il accueille ces gens, il t'accueille toi dans ton histoire. Tu n'as pas besoin de réussir pour être accueilli de Jésus. Et accueillir, c'est que Jésus se laisse approcher. Il est accessible. Et que tes erreurs secrètes, tes dysfonctionnements, tes échecs de la vie n'est pas un obstacle pour lui. Il t'accueille et il veut manger avec toi. Alors, avant d'aller plus loin, moi j'aimerais qu'on ferme les yeux simplement. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Et si tu es dans une situation où tu te sens loin de Dieu ce matin, si tu es dans une situation où tu te sens séparé de lui par une liste d'événements, de difficultés, d'erreurs, d'addictions, mais que tu veux te laisser accueillir par Jésus pour la première fois ou de revenir à lui, alors que tout le monde ferme les yeux, je te demande juste de lever la main pour dire oui, je veux revenir à Jésus. Oui, je te vois. Oui, je te vois. Oui. S'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut revenir à Jésus, oui. Oui, je te vois aussi au fond. Alors j'aimerais seulement prier pour ces personnes. Seigneur, tu sais la réalité de leur vie, mais merci parce que tu leur appelles par leur nom. Merci parce que tu es mort et ressuscité pour que ces personnes soient déchargées, soient pardonnées, soient libérées, soient guéries et soient dans la maison de Dieu. En paix. Et je place entre leur passé, leurs échecs et les conséquences de ceci, leurs addictions et tout ce qu'il y a, la victoire de la croix, Amen. La puissance de la résurrection sur leur vie, Amen. Et leur personne. Maintenant, ce matin. Amen. 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 Alors, je reviens maintenant sur l'ouverture sur l'extérieur. où Jésus nous défie avec ce texte, c'est que lui, il arrive à être en relation, pas juste en contact, mais en relation d'amitié même, avec des gens avec qui il n'est pas d'accord au niveau éthique, au niveau attitude. Et ça, c'est défiant pour nous, le milieu évangélique, parce que nous, on est facilement à se distancer par rapport à ceux qui n'ont pas les valeurs que nous avons. Parce qu'on a peur d'être, d'une part, contaminé, si on peut dire ça comme ça, et d'autre part, on a peur que si on a une amitié avec eux, ça veut dire qu'on valide, qu'on est d'accord avec eux. Mais là, on voit que Jésus, il arrive à être en relation, à vivre, tout en restant Jésus. Fils de Dieu, honorons le Père. Voyez la tension? Et ça, c'est pas facile. Et là, ce matin, Dieu nous défie de ne pas être juste des thermomètres, mais des thermostats. Tu travailles dans ton bureau, il y a de la critique, tu es en thermomètre, tu critiques aussi. Tu es juste en thermomètre, tu indiques qu'il y a de la critique. En thermostat, il change l'atmosphère. Quand il fait froid, on tourne le thermostat, ça devient chaud. En tant que chrétien, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu passes tes loisirs, tu es appelé à être en thermostat, à changer l'atmosphère du lieu où tu es. Parce que l'ennemi est vaincu. Et ce qui est en toi est plus fort que l'ennemi. Amen. Je prends l'exemple de Zachée. Zachée était un péager aussi, qui était petit, donc il s'est mis sur un arbre. Puis Jésus passe, dit « Je vais manger avec toi ». À la fin du repas, le texte ne dit pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Jésus qui est devenu un voleur ou est-ce que c'est Zachée qui est devenu un homme droit? C'est Zachée qui est devenu un homme droit. Il a rendu ce qu'il a volé. Et ça s'est passé autour d'un repas. Ce n'est pas passé au niveau de confrontation, tribunal, t'as fait faux. Il était en thermostat. Et Dieu vous appelle là où vous êtes, individuellement, mais là aussi où vous êtes en église, à être en thermostat dans cette ville et dans cette région. Osez être en relation avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est eux qui risquent quelque chose, ce n'est pas vous. Pas Jésus est en vous. Ok ? Alors, Jésus, après, il continue. Il continue avec trois histoires pour confronter ces gens religieux. La première histoire, c'est un berger qui a 100 moutons, il y en a un qui se perd, il va le rechercher, il le ramène et il y a la fête. C'est la suite de ces versets. Je n'ai pas mis les versets parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre, mais là c'est intéressant. Il y a 1% de perte. 1%, il part. Il revient. Et là la question que je vous pose en église, le berger, le pasteur, est-ce que vous le payez pour vous? Est-ce que vous le payez pour ceux de l'extérieur? Ouh, c'est une question de budget. Hein. À l'église de l'Oasis à Morges, David Richir, qui est actuellement un des profs de l'HET Pro à Seigneur-Légier, il a lu ce texte, c'était une prédication, une église honorable de 150 ans, hein, bourgeoise et tout. Et puis dans cette église, il y avait une porte derrière aussi. Alors il a lu le texte, puis il s'est barré. Puis il était faire l'évangélisation dans les rues de Morges. Puis l'église était là, 150 personnes. Pas de pasteur, pas de prédication. Puis il y avait le pasteur jeunesse qui était de mèche, qui a attendu que la mayonnaise monte. Puis après, il y a eu tout un débat, mais pourquoi on paye un pasteur? C'est pour catéchiser, baptisé, marié, enterré, entre deux, quelques visites. C'est pour nous qu'on paye un pasteur? Ou c'est pour le libérer d'aller chercher ce qui est perdu et nous enseigner à aller chercher ce qui est perdu? Ça, c'est une bonne question à réfléchir. Après, il y a une deuxième histoire. Alors là, on a 10% de perte parce qu'il y a 10 pièces, une pièce d'argent se perd dans l'appartement, l'intendante change tout son programme pour rechercher cette pièce, elle la trouve, et ils font nouveau la fête. C'est génial. 10% de perte, elle change tout le programme. Elle a aussi une question que je me pose dans nos églises. Qu'est-ce qu'on est prêt à changer comme programme de nos vies d'église, de nos cultes, de nos agendas pour aller chercher les personnes en recherche, pour aller chercher les personnes qui se posent des questions sur Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt de changer dans nos programmes? Et puis après, il y a une troisième histoire. Alors là, on peut dire que c'est le 50% à 100% de perdu, là. C'est plus grave. C'est un homme qui a deux fils. Le cadet, il a demandé l'héritage à son père. Ça ne se faisait jamais en Orient avant la mort du père, donc c'est une manière de pousser dans la tombe. C'était scandaleux. Le père le lui donne quand même. Il part. Il gère mal son histoire. Il finit... c'était pas possible d'aller plus loin dans la décadence pour un juif, d'être en terre étrangère et à garder des cochons. C'est le pire pour un juif, ça peut arriver. Hein. C'est plus pire, il n'y a pas. Et là, il réfléchit, il se dit, il y a quand même un problème, les serviteurs de mon père, ils sont mieux que moi, je retourne, je demande pardon, et il revient. Et là, le père court à sa rencontre. Le mec, il a tout cramé, il a fait tout faux, il est dans l'échec. Le père lui court à sa rencontre. La seule fois où Dieu est pressé dans la Bible, c'est quand tu reviens en ayant fait tout faux. Là, il est pressé de t'accueillir. C'est la seule fois dans la Bible où Dieu est pressé. C'est la seule fois où il court. Autrement, 1000 ans, c'est comme, hein, voilà. Mais là, il est court. Donc sache, rappelle-toi d'ailleurs, si tu retombes dans une addiction, tu retombes dans un travers, l'ennemi veut que tu restes éloigné. Sache que quand tu reviens à lui, il court vers toi. Tu n'as pas besoin de réussir. Voilà. Alors voilà, voilà ce qui se passe. Et puis maintenant, on va lire le texte de la réaction du frère aîné au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici la tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, hein, pas mon frère, mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien, avec des prostituées pour lui tu as tué le veau gras. Toi mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Et l'histoire finit par là. L'histoire finit comme ça, alors on ne sait pas si les pharisiens ont joué le jeu de venir ou pas, on ne sait pas. Mais il y a deux, trois choses qu'on peut dire sur ce passage. D'abord, cet aîné est en colère. Il est en colère, il ne comprend pas son père. Son père est aussi prodigue que son petit frère. Prodigue dans le sens qu'il est généreux à l'excès. Son petit frère, il a dépensé à l'excès. Et puis son père, il dépense aussi à l'excès avec un gars qui a fait tout faux. Donc il est très, très en réaction. Et là, on voit le père, il réagit avec tendresse. Autant il était à la rencontre de celui qui revient en ayant tout faux, il était à la rencontre de celui qui fait tout juste, mais qui n'est pas en relation. En fait, lui, il pêche de ne pas pécher. Il croit que ses bonnes attitudes obtiendra la faveur de son père. Et là, il y a une notion qui est compliquée, c'est de dire que les deux frères, en fait, sont perdus. Le premier en désobéissant totalement aux valeurs du père, mais l'autre, il est aussi perdu parce qu'il n'est pas en relation avec son père. Mais celui qui est le plus perdu des deux, c'est le frère aîné, parce que lui, en tout cas, où l'histoire s'arrête, il n'a pas donné une réponse affirmative de se laisser accueillir par Dieu. Tandis que l'autre, oui. Et le frère aîné est son propre sauveur. Il essaie de gagner la faveur de Dieu. alors que Dieu lui donne tout. Et la question qui se pose, c'est que le frère est né dans une prison. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous sommes isolés en tant que chrétiens évangéliques de la société, c'est parce que nous sommes dans une prison. Une prison de tellement de choses qu'on doit faire juste et surtout pas faire faux. Et puis si on ne réussit pas dans un domaine, on se sent exclu ou mal accueilli parce que, ben, parce qu'on a vécu en divorce, parce qu'on a manqué de foi dans un processus de guérison, parce qu'il y a un enfant qui tourne mal, parce qu'on est au chômage ou à l'AIP. On peut faire la liste de choses pour lesquelles on se sent exclu parce qu'on est chrétien évangélique dans la bénédiction de Dieu, on devrait être CSA. On est dans une prison. Et puis c'est clair que cette prison ne fait pas très envie au fils cadet qui a envie de vivre un peu, hein. Puis part. Et ce que je réalise en faisant les cours alpha, ce que je réalise en allant en contact avec mon entourage, les gens, ils n'ont pas trop de problèmes avec Dieu. Même, ils acceptent dans cette saison, étonnamment, facilement la prière. Mais ils ont un problème avec l'Église. L'institution Église. Pas forcément les chrétiens. Mais l'institution Église, ça leur parle peu. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait tout faux en venant vers nous, des gens honorables, bien habillés, à l'heure, parce qu'on a l'ombre d'oméga, et puis gérant notre vie tranquille, et puis avoir des enfants, puis des petits-enfants, puis ça marche. Je dis, ils sont le mal. Et on transpire quelque chose qui n'est pas le message de Jésus, vers qui ces gens-là se laissent attirer. Donc on doit vraiment réfléchir à notre message et notre manière d'être avec ceux qui sont perdus. Maintenant, on peut se poser quelques questions dans le temps qui nous reste. Dans les premières deux histoires, il y a toujours quelqu'un qui était cherché. Hein, chercher la brebis, chercher la drachme. Dans la troisième histoire, il n'y a personne qui a été cherché. Le cadet perdu. À votre avis, qui aurait dû le chercher ? Le frère aîné. En Orient, ça serait le frère aîné parce que en Orient, ce n'est pas le patriarche qui voyage. On le voit avec Isaac, avec Jacob. Jacob a envoyé ses fils en Égypte, etc. C'est le frère aîné. Le frère aîné, au lieu de bosser comme un cinglé dans son champ pour obtenir un petit peu la faveur du père qui, en fait, lui donnait déjà tout, il devait entendre le cri du cœur du père en souffrance. Pour le frère qui n'est plus là. Et c'était ça qui devait le motiver. Vous voyez la différence ? Donc quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour nourrir ta foi seulement, ce n'est pas pour recevoir une prophétie ou la prière, ou ce n'est pas pour toi, ou pour que le pasteur te visite, ou etc. Ce n'est pas toi. Tu viens en église pour entendre le cœur de Dieu, qui a des choses à te dire à toi, mais il a aussi des choses qu'il t'aimerait te partager des gens autour de toi. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui paye la fête ? Vos gras, les notes, tout ça. C'est qui la paye ? Ben non. C'est sur quelle part ? Ah ben ouais, là on a un problème. On commence à comprendre pourquoi il est en fureur le gars. Ah ben, partager en deux, dans l'Orient ancien, selon les historiens, c'est l'aîné deux tiers, le cadet un tiers, mais enfin, ce qui restait, c'est sur sa part. Purée, que le gars qui a fait tout fond, fait les festivités, elle en vient tendue. Non mais c'est vrai. Vous comprenez le problème ? Et on comprend pourquoi il est en colère. Et on comprend aussi l'étroitesse de son cœur. Et c'est vrai, moi je vois, on a remis en route les cours alpha qui marchent étonnamment bien, c'est une faveur de Dieu. Le problème c'est que les gens ils se convertissent, puis le problème c'est qu'ils viennent après à l'église. Puis après le problème c'est qu'ils disent, non mais le cours alpha, on mange, on rit, on a un bon enseignement, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Puis après à l'église c'est réglo, machin, tout ça, mais c'est quoi cette histoire ? Moi j'ai cru, puis alors la Sainte-Seine, hein, c'est un petit repas à côté de ce qu'on avait au cours alpha. Non mais c'est frugal hein, le truc. Enfin ils posent plein de questions, puis ils ont raison de poser des questions comme ça. Puis là on fait quoi ? C'est qui a raison ? C'est à qui qu'on laisse la place ? C'est compliqué. Puis après les plus vieux disent « Ouais Marc, tu t'occupes que des gens du cours alpha, et puis nous ?» On existe aussi. Alors je les visite quand même. Hein. Mais quand même, on existe. Et nous ? Si je paye la dîme, c'est pour que tu me visites. C'est en troc. Vous voyez le truc ? Voilà. On a un problème. Qui paye la fête ? Et là, on voit que nous sommes appelés à payer en prix pour que des gens entendent l'évangile. Jésus a payé le prix majeur, mais dans notre réalité, nous avons un prix à payer. Malheureusement. Et que la gangrène que nous avons sur ce monde, c'est l'esprit d'orphelin qu'il y a dans les églises qui ont certaines maturités quand même spirituelles, comme la vôtre. Un sentiment qu'on se bat pour avoir un chevreau et qu'on n'a pas compris qu'il y a la fête pour nous. Où tout est là, sans qu'on fasse rien. Et qu'en fait, si on n'arrive pas à payer le prix de changer des habitudes, changer des horaires, changer des choses qu'on aime bien, pour que ceux du dehors comprennent quelque chose et entendent l'évangile et qu'on prenne soin d'eux, c'est parce qu'on n'est pas assez dans la fête. On n'est pas assez dans la présence de Dieu. On n'est pas assez en communion avec Dieu et d'entendre son cœur pour les perdus. Et là, on a des questions à se poser. Et à nous, chrétiens, mature, il y a cette parole, je voudrais lire, qu'on peut reprojeter de Luc 15, 31. « Toi, mon enfant, dit le Père, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Et c'est Dieu qui parle, « Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qu'a Dieu est à nous. » Après, on gueule parce qu'il y en a deux, trois nouveaux qui changent le programme du culte, qui influencent les chants ou qui nous amènent un truc différent. Mais tout ce qui est à Dieu est à nous. Et là, on doit vraiment changer de mentalité. Une autre chose aussi qui est à se poser comme question, et ça c'est plutôt par rapport aux plus jeunes. Moi, j'ai dû faire tout un chemin par rapport à mon fils cadet. Il a essayé trois apprentissages, ça a foiré. Qu'il est dans une start-up maintenant très bien organisée, très bien, mais alors qu'il devrait être en apprentissage, il n'est pas en formation, il est hors du système. Je dois accepter de le libérer. Et là, il y a une notion qu'on doit comprendre dans le côté des plus jeunes, c'est que comme on vit l'Église, des fois, c'est un peu trop ça ne leur parle pas. Ils ont besoin de faire autrement, sortir du cadre. Mais ils ont besoin de nous en relation, parce que s'ils ne sont plus en relation, ils risquent de finir avec les prostituées. Et le problème d'avoir fini avec les prostituées du cadet, ce n'est pas qu'ils voulaient aller avec les prostituées, c'est qu'ils étaient en rupture avec le père et en rupture avec son frère aîné, qui avait peut-être deux, trois bons conseils pour qu'il gère son histoire. Donc on doit donner la liberté, mais dans la relation. Et dans ce sens-là, le père, je trouve extraordinaire. Et nous sommes appelés à être des pères et des mères de cette manière. Les pères et des mères, à l'image de ce père, d'abord il donne la permission. Tu as le droit de faire différent de ce qu'on a fait. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Mais tu as le droit de faire différent. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Mais tu as le droit de faire différent. Première chose, permettre. La deuxième chose que le père a fait, il a pourvu. Il a payé. Il a pourvu. Même que c'était un projet qui n'était pas le sien. Ah, ça, c'est un casse-tête dans l'Église. On est en train de construire un nouveau bâtiment, mais certains trouvent que ce n'était pas tout à fait le bâtiment qu'ils voulaient, donc ils ont arrêté de donner. Parce que ce n'est pas son projet. C'est un problème. Seulement, on donne si c'est notre projet. Ben non. Là, le père, ce n'était pas du tout son projet, c'était en dehors de sa vision des choses, mais il a quand même donné. Il a permis et il a donné. Mais la troisième chose qu'il a fait, il a offert sa présence. Qu'elle était prise ou non, mais il a offert sa présence. Vous voyez le truc ? Et ça, c'est le Père dans la Bible. Et nous sommes appelés à être des gens comme ça. À permettre, à pourvoir et à offrir sa présence. Et pourquoi on peut le faire ? Parce que nous sommes dans la présence du Père qui a tout et qui nous donne tout. Ok ? On s'arrête là ? J'ai été trop long, ça ne fait rien. Je vous invite à vous lever, on prie après Ramsès. Ouais. Reprends pour la Sainte-Seine. Eh bien Seigneur, moi je te prie pour cette église ici. Je te prie pour chacune des relations que ces personnes ont, à l'école, au gymnase, dans les places d'apprentissage, dans les quartiers, dans les bureaux, les entreprises, dans les homes aussi. Je te prie, Seigneur, que ce peuple ici soit un peuple thermostat, un peuple qui amène ta vie là où ils sont, là où ils travaillent et font la différence. Et je te prie, Seigneur, de te manifester dans ce lieu comme un Dieu de présence, d'abondance. Je résiste contre l'esprit de pauvreté, de minimalista, parce que tu es un grand Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. Et je te prie de lever cette église pour cette ville, pour cette région. Je te prie des rendez-vous divins avec des gens en recherche, en questionnement. Je te prie, Seigneur, pour de la foi. Je te prie pour des signes et des prodiges qui amènent les gens dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen.